causerie en air.
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 Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes à la maison de quartier des Fourches en présence de l'animatrice du quartier des Fourches. Et nous sommes avec Kevin, Gwen,
salut.
Taous, Annick. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Vous êtes animatrice du quartier de la maison des quartiers de Fourches.
C'est ça, je suis animatrice à la maison de quartier des Fourches. Mon travail au quotidien, ça va vraiment être de proposer des animations à destination des familles, des habitants du quartier et de construire avec eux aussi des projets. Travailler en partenariat avec l'école du quartier, l'accueil de loisirs du quartier, les éduques de rue aussi, les collègues des autres maisons de quartier aussi. Voilà, en gros, c'est vraiment ça, proposer des temps de loisirs partagés avec tout le monde.
Quels sont les publics que vous accompagnez ?
Beaucoup de familles, les parents, les enfants, mais aussi les seniors. Le public senior avec qui, le mercredi après-midi, je tape de la carte, je joue à la belote. Voilà.
Même avec les seniors ?
Ah ouais, et le trio Mino aussi, à fond. Voilà. Ils ne sont pas bien nombreux, mais franchement, c'est un bon début. Et non, c'est rigolo, c'est des bons moments avec eux aussi.
Est-ce que, Kevin, tu as une question pour l'animatrice ?
Oui, j'ai une question, moi, que je pose tout le temps. Quel diplôme vous avez passé pour faire ce métier ?
J'ai un BPJEPS, loisirs tout public. Voilà.
D'accord.
Vous faites combien de temps, votre BPJEPS ?
C'était un diplôme sur 13 mois. C'est vieux maintenant. Mais ouais, c'était sur 13 mois, en alternance. Et j'étais déjà à la maison de quartier des Fourches, en fait. Voilà, donc j'étais, quand je suis revenue ici, j'étais en territoire connu. Voilà.
Vous avez beaucoup de monde qui fréquente la maison de quartier ?
On a pas mal de monde qui fréquente la maison de quartier. Après, pas tous pour la même chose. On fait pas mal de démarches administratives avec certains habitants. Il y a un service photocopie. Il y a le RAM aussi à destination des assistantes maternelles. Après, il y a toujours du monde. Enfin, c'est vraiment voilà, une maison de quartier qui vit, enfin, je crois, à mon niveau. Voilà. Et où, non, il y a un noyau dur d'habitants et c'est ça qui est cool et c'est ça aussi qui est. Voilà, c'est beaucoup plus facile de monter des projets avec eux. Et, voilà. Et puis, c'est un chouette quartier, les Fourches aussi, surtout. Voilà.
Comme le quartier de Saint-Nicolas.
Merci. Eh ben oui, parce que ma mamie, elle habitait Saint-Nicolas. D'accord. Donc je connais bien depuis très longtemps Saint-Nicolas. Et j'aimais bien quand j'étais gamine aussi, aller à la Plaine d'Aventure. Voilà.
Meilleur quartier de la ville.
Ah, les Fourches, c'est pas mal aussi quand même. Hein. Faudra qu'on fasse des battles.
La concurrence, là. Hein.
Ouais, je pense.
Parce que nous, notre quartier, on y tient. Hein.
Ouais, bah, et pourtant, je suis pas du quartier. Hein, mais j'ai habité le quartier, mais c'est vraiment un chouette lieu où il y a plein de choses à faire aussi, comme à Saint-Nicolas et comme dans tous les autres quartiers.
Quel genre de sortie vous proposez ?
Eh bien, on est sur des sorties... alors, l'été, on est sur de la mer, mais ça peut être aussi voilà, des parcs de loisirs, des zoos, ça peut être des randos dans la Mayenne, en Mayenne surtout, ouais. Voilà, ouais, en gros, c'est ça. J'ai réfléchi, mais en fait, on fait surtout aussi en fonction voilà, des besoins et des envies des habitants. Et l'été, voilà, on est quand même sur de la bonne mer quand il fait beau. Et autrement, ça peut être des sorties, voilà, aller visiter, je sais pas, la dernière fois, je suis allée à Sablé, visiter une biscuiterie avec mes petits seniors. C'était un chouette moment, c'était cool. On a visité après le château, enfin voilà. C'est varié et c'est ça qui est chouette dans notre job finalement.
Je vous remercie de nous avoir donné toutes les informations. Sur les Fourches, je pensais c'est un peu comme toutes les maisons de quartier, mais un peu plus que vous avez des seniors en plus que vous accompagnez.
Tout à fait.
Bien. Donc voilà, merci.
Mais de rien.
C'est quoi déjà ? Causerie on air.
Nous allons continuer avec l'annonce sur le salon de l'agriculture. Que Kevin nous a fait le plaisir de se balader. Donc, dis-nous, Kevin, qu'as-tu découvert ?
Oui, effectivement, j'ai été au Salon de l'Agriculture là, début mars. Donc, j'avais envie de vous faire partager cette belle journée en présence des vaches, des cochons. Voilà, c'est ça.
Ouais. Cool.
Donc voilà, je vous laisse découvrir.
Merci.
Bonjour, je suis bien au Salon international de l'agriculture et je vais vous faire voyager à travers ce salon. Alors, suivez-moi. Je suis avec un producteur de cidre, le cidre de la Brique à Saint-Joseph en Normandie dans la Manche. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Alors, quelle est votre activité principale ?
Alors nous, la cidrerie qui est à Saint-Joseph, près de Valogne, on est une PME de 10 salariés à peu près et on produit en fait du cidre avec des pommes qui viennent exclusivement du Cotentin. Donc on produit du cidre, du jus de pomme, etc. Plein de produits sympas quoi.
D'accord, avec des produits du terroir du coup. Alors quelles sont les étapes de la cueillette des pommes jusqu'à la bouteille ?
Alors nous en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est la dernière cidrerie du Cotentin qui achète les pommes à des particuliers. Donc de là, c'est-à-dire qu'en fait, on a une liste de particuliers qui viennent nous amener entre 1 et 5 tonnes à chaque fois à la cidrerie. Donc nous ne sommes pas une coopérative, hein, on est complètement indépendant et on dépend vraiment en fait de ces producteurs-là. Donc de là, nous, on récupère les pommes et à partir du moment où on récupère les pommes, bah, on va les laver, on va les presser, etc. pour extraire le jus et on va faire la fermentation, etc. jusqu'à avoir le rendu final, c'est-à-dire le produit embouteillé, quoi.
D'accord. Alors quels sont les avantages et inconvénients de votre métier ?
Alors, inconvénients, en vrai, il n'y en a pas tellement. Après, avantages, il y en a plein, parce que c'est quand même un métier qui touche à tout, que ce soit commercialement parlant ou en tant que production. Parce que, bah, effectivement, hein, le monde du cidre, c'est un monde très intéressant, déjà, de par le fait de tout le côté production, déjà, qui est assez intéressant. Après, commercialement parlant, effectivement, il y a de l'export à faire, il y a des magasins, des marchés, il y a toujours des nouveaux marchés à essayer de conquérir, entre guillemets. Donc, non, c'est toujours très sympa et on s'ennuie jamais dans ce métier-là, quoi.
D'accord, donc c'est un métier de passion. Est-ce qu'on peut vous trouver sur des réseaux sociaux ?
Alors oui, bien sûr, on peut nous trouver sur Facebook et Instagram, donc Cidrerie de la Brique. Et voilà, donc après, il y aura toutes les infos, numéro de téléphone, adresse, tout ça, sur ces réseaux-là, effectivement. Ouais.
D'accord, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir accueilli à votre stand. Je vous souhaite une bonne journée, un bon salon. Et puis attention, à boire avec modération.
Merci, à vous aussi, bon courage.
Alors maintenant je suis avec une productrice de fromage dans le Calvados, donc la marque Thébault. Bonjour.
Bonjour.
Alors quelle est votre activité principale ?
Alors aujourd'hui nous sommes la fromagerie de la Housset, nous sommes basés à Boisset, donc notre activité principale c'est nous sommes fromagers depuis les années 1800. L'entreprise a été créée par Michel Fromage de son nom, donc je pense était promu à un bel avenir dans le monde fromager et donc on est sur une vente de fromage AOP et de spécialité régionale.
D'accord, ah oui, AOP. Quel est le parcours du fromage, donc de la ferme jusqu'au supermarché ?
Eh bien, aujourd'hui, nous, on collecte le lait auprès de 10 producteurs qui sont très locaux autour de notre atelier, à moins de 30 km autour. Donc, on va être sur la collecte de lait donc conventionnel et bio, puisqu'on a des producteurs aussi en bio. On va être après sur la fabrication et l'affinage de fromage pour ensuite être sur une revente à destination d'un réseau traditionnel et de grande distribution.
D'accord, dans les magasins du coup. Alors, sur quels réseaux sociaux on peut vous trouver ?
Aujourd'hui, on a un site internet donc avec la fromagerie de la Housset sur lequel vous pouvez trouver donc nos spécialités et nos AOP. Et on a aussi donc sur Facebook une page dédiée pour promouvoir la fromagerie.
D'accord. Je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous souhaite un très bon salon.
Merci beaucoup.
Je suis maintenant avec le président du département de la Mayenne, monsieur Olivier Richfou, au Salon de l'Agriculture. Bienvenue sur notre radio.
Bonjour à vous.
Alors, donc je vous laisse vous présenter pour nos auditeurs.
Très bien, je suis donc Olivier Richoux et je suis le président du conseil départemental de la Mayenne. Voilà.
Alors, dans notre zone rurale, vous soutenez les producteurs mayennais. Donc, pouvez-vous nous citer quelques partenaires ?
Alors effectivement, la Mayenne est un territoire agricole et on est fiers de notre agriculture et de nos agriculteurs. Et on offre la possibilité, c'est la troisième année, à des agriculteurs qui produisent des produits alimentaires, de pouvoir les présenter et les commercialiser auprès de tous les visiteurs. Je rappelle qu'il y a près de 700 000 visiteurs à ce salon. Et l'association Bienvenue à la ferme, qui regroupe ces agriculteurs, anime ce stand. Et vous le voyez, il y a différents produits qui sont proposés, ce qui permet de toucher nos amis parisiens et de leur permettre de comprendre qu'en Mayenne, on a une agriculture vivante et qui produit des produits de grande qualité.
Oui, c'est sûr, des bons produits dans notre département. Je vous remercie beaucoup pour ce petit moment avec nous.
Merci à vous et heureux de vous avoir rencontré, d'avoir ainsi, par votre intermédiaire et grâce à vous, pu apporter mon témoignage sur l'excellence de l'agriculture en Mayenne. Merci à vous.
Je suis en direct avec Marie, passionnée d'agriculture, plus connue sous le nom de Chicalou sur TikTok. Comment ça va, Marie ?
Eh bien, ça va et toi ?
Ça va, nickel. Alors, tu as près de 69 000 abonnés sur TikTok, donc j'adore tes vidéos. Alors, comment t'es venue l'idée de faire ce contenu sur l'agriculture et les animaux ?
Je suis passionnée d'animaux depuis que je suis jeune et en fait c'est quand le Covid a commencé que je me suis lancée sur internet, que j'ai commencé à partager mes animaux et je suis rentrée dans le milieu agricole en fait presque en même temps et du coup j'ai lancé mon truc sur internet.
D'accord. Et t'as fait quel diplôme pour faire ce métier ?
J'ai fait un BTS production animale.
BTS production animale, d'accord. Et comment se déroule une journée de travail, ta journée de travail ?
Alors le matin j'arrive, je vais voir si tout le monde va bien, je passe mes vaches au robot, ensuite je donne à boire à mes veaux, je fais mes logettes et puis ensuite on fait les soins aux animaux.
Et c'est de Laval, c'est ça, les robots ?
Ouais, c'est un beau robot de Laval 310, il est magnifique en plus. Hein.
Alors les stéréotypes encore en 2023, du genre l'agriculture c'est pas pour les femmes, comment tu t'es sentie accueillie dans le domaine de l'agriculture ?
Par mes patrons, pas forcément très bien, puisqu'ils partent du principe qu'une femme c'est à la traite et les autres dans le tracteur. Mon deuxième patron, c'est quelqu'un de très très ouvert. Il estime qu'une fille était totalement capable de faire les mêmes choses qu'un homme. Donc très bien, mais tout dépend du patron, encore une fois.
On voit ça, tu étais bien surtout accueilli dans l'ensemble.
Ouais.
Et enfin, merci d'avoir pris le temps pour moi. Et je te laisse carte blanche et j'aimerais bien que tu nous chantes ton remix que tu nous as fait en live la dernière fois.
Alors je peux le faire, mais alors je me rappelle pas de la musique.
J'ai connu une bête, il y a un mois peut-être, il n'y a plus d'erreur. Je veux faire agriculteur, asperger de parfum, je vais lui donner du foin. Nourrir toutes ces bêtes, je trouve ça trop chouette. Mais moi je reste un homme qui aime bien la vie. Donc je chope mon téléphone. Ce soir restons en amoureux, paya papa papa ya pa. En amoureux, paya papa papa ya pa. On peut aussi être une femme, travailler à la campagne. Des gourbes féminines, sur nous il y en a aussi. Le purin, ça me fait pas peur. J'ai conduire un tracteur, avec une triste on peut pas tester. Ces gens aux petites pestes, eh oui je suis une femme qui aime bien ce genre de job. C'est fait pour moi, pas besoin d'avoir un zapa ya pa 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 ya pa. Un zapa ya pa 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 ya pa.
Bravo, ça y est, t'es prête pour The Voice du coup.
Ouais, carrément.
Allez, bon courage.
Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis si vous m'avez écouté, bon courage pour vos oreilles.
Et merci de m'avoir suivi pendant ce salon. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à l'année prochaine.
Et c'est toi qui enregistres.
Donc maintenant, nous allons écouter la musique sans prétention du groupe de Mayenne.
On est plutôt jolis garçons. Sans prétention, on est les rois de la chanson.
femme Yvette. Je vends de la ciboulette, primeur sur les marchés. Mesdames, messieurs, approchez. Ma promo d'aujourd'hui, être entouré d'amis. Mon piano à Bruxelles, je me sens pousser des ailes. Mes habitudes dans mon bureau d'études, car dans mon business tout est réglé au poil de fesses. Je suis pas du Jean Pipelette, mais derrière mes lunettes se cache un allumé qui a des problèmes de volonté.
Sans prétention, on est plutôt joli garçon. Sans prétention, on est roi de la chanson. C'est pas notre métier, mais vous l'aurez.
Je suis VRP, ça c'est un beau métier. Toute la journée, je vais me promener. Commercial winner, je suis de bonne humeur. Je montre mes dents pour être convaincant. Hey, moi je suis paysan, j'aime être dans les champs. Mes bottes et mon bonnet, la mode ça me connaît. Agriculteur au cœur, je chante dans mon tracteur. À côté mon banjo, ça c'est du bon boulot.
Car sans prétention,
pas pour me prostituer, mais pour poser du carreau. Ça c'est dur pour le dos. En retard sur les chantiers, je prends le temps de boire le café. Mais c'est pas le bon moment, car l'heure c'est important. On m'appelle Pépito et je travaille dans l'auto. C'est vrai que je débloque quand je vois tous ces pare-chocs. Avec mes baguettes, je fais tourner les majorettes. Je vais pas tout vous raconter ou je vais finir enfermé.
Sans prétention,
c'est quoi déjà? Causerie on air.
Nous sommes en présence des services civiques unicité.
Eh ben, du coup, on est heureux de vous accueillir sur l'autre radio. Alors, nous sommes en présence de Julie Blais, donc coordinatrice d'équipe projet. On va commencer par vous. Alors, j'ai fait le service civique l'année dernière avec Unicité et on m'a toujours demandé, mais Kevin, c'est quoi Unicité? Alors du coup, je vous pose la question, c'est quoi la différence entre le service civique de l'État et Unicité?
Eh bien, bonne question. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Unicité, nous, on est une asso qui encadrons des jeunes en service civique. Donc sans cette association, du coup, ça sera un petit peu compliqué d'encadrer les jeunes qui sont avec moi ce soir. Nous, ce qu'on va proposer, c'est de pouvoir les accompagner dans leur mission de service civique, qui va durer 8 à 9 mois, et de leur proposer des activités pour construire un petit peu leur projet d'avenir, de voir ensemble comment ils peuvent évoluer tout au long de ces 8 mois pour faire en sorte que ça soit les adultes de demain.
Alors, quel est votre rôle en tant que CEP?
Alors, je gère tous les petits imprévus du quotidien, que ça passe par les relations avec les partenaires, le fait de prévoir justement ces 8 mois où ils vont être présents, de gérer un petit peu le suivi de leur mission, d'être aussi soutien et de pouvoir les accompagner si à un moment donné, ça devient difficile aussi pour eux. Donc, ce rôle de coordinatrice, il est un peu le rôle d'accompagnatrice, je préfère l'appeler comme ça, c'est un petit peu plus sympa.
J'ai une question, est-ce que vous pouvez me définir CEP?
C'est coordinatrice d'équipe et de projet.
Merci beaucoup. Voilà.
C'est pas comme CPE.
Ah, ça pourrait être autre chose. Hein.
Alors maintenant, vous présentez donc, nous, avec les trois volontaires de la promo 2022-2023. Alors ils sont trois. parce qu'il y a trois missions. Donc je vous laisse vous présenter. Et quelle est votre mission en service civique ?
Bonjour, je m'appelle Valentin. Moi je suis dans la mission qui s'appelle la mission des JAD, donc jeune ambassadeur des droits à l'égalité. Et nous, notre but, c'est d'intervenir dans des établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes sur tout ce qui est une notion de discrimination et, comme le nom l'indique aussi, l'égalité. Et aussi, de leur présenter le défenseur des droits. Parce que nous, c'est une mission qui est un peu spéciale. On n'est pas qu'avec Unicité, on est avec aussi le défenseur des droits sur Paris. C'est ça. Juste de la sensibilisation, leur parler et régler tout ça.
Bonjour, moi je m'appelle Jade Rimbaud, j'ai 17 ans et je suis en mission solidarité senior. Donc le principe c'est d'effectuer à domicile des visites de convivialité chaque semaine. Et c'est envers des personnes âgées isolées.
Donc bonjour, moi je m'appelle Kylian, j'ai 20 ans, je suis de Laval et je fais partie de la mission solidarité aidant. Donc le principe, c'est de donner un temps de répit aux parents d'enfants en situation d'handicap.
Alors, votre journée de travail ressemble à quoi ? Donc faites-nous rêver.
Alors, dans mon programme Solidarité Aidant, donc le lundi et le jeudi, nous sommes en structure IME, donc en institut médico-éducatif. Nous découvrons le métier d'éducateur spécialisé, nous participons à des activités avec des jeunes en situation d'handicap. Et le mercredi, nous accompagnons des enfants de l'association Autisme Mayenne. On leur propose des activités en dehors de chez eux afin de soulager les parents et de leur donner un temps de répit.
C'est vous qui avez choisi ce que vous voulez faire ou on vous a aidé à choisir puisque vous faites justice et droit. Est-ce que c'est en amont, vous saviez déjà que vous voulez faire ça ou on vous a aidé à vous orienter sur ce créneau-là ?
Et en tout début, avant de commencer le service civique, on a une espèce de mini entretien d'embauche. Et ils nous présentent l'émission. Même avant, on a des petites réunions où ils nous présentent l'émission, ce que c'est qu'Unicité. Ils nous, avec un peu ce qu'on leur dit et tout, ils peuvent nous orienter. Des fois, on a envie de faire telle ou telle mission. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi ma mission,
L'autre question que j'ai à vous poser, est-ce que vous pouvez changer de mission. Par exemple, on vous a présenté celle-ci. Si ça ne vous plaît pas, est-ce que vous avez la possibilité de changer ?
Non, on n'a pas la possibilité de changer. On commence une mission et ce que j'ai dit, c'est bon. On commence une mission, c'est pour 8 mois et le but, c'est d'arriver au bout. Quoi.
D'où l'intérêt de bien choisir. Ouais. Ok, d'accord. Merci.
Moi, je voulais poser une question à vous qui vous occupez spécialement des enfants handicapés, parce que je suis concernée, j'ai un enfant handicapé. Quelle formation vous avez pour vous occuper des autistes ? Vous avez une formation très spécifique ou vous apprenez sur le tard ?
Pas du tout. On n'a pas eu de formation spécifique. On a eu une présentation assez généraliste des troubles du spectre autistique, etc. Mais sinon, on n'a pas de formation à proprement parler. Donc on a pas mal appris auprès de professionnels qu'on rencontre dans les structures IME. C'est surtout là qu'on a appris.
Du coup, vous prenez surtout en charge des autistes pas trop, trop sévères non plus ?
Ça dépend en fait. Il y en a qui sont assez communicatifs avec nous. Il y en a où c'est très compliqué de communiquer avec eux.
D'accord. Est-ce que c'est du fait de ce choix, vous allez continuer sur cette orientation-là ? Professionnel plus tard.
Alors moi qui suis en solidarité senior, c'est grâce à ce service civique que j'ai su que du coup je voulais aller en formation d'aide-soignante par la suite. Donc oui.
Moi du coup personnellement je savais pas spécialement ce que je voulais faire. J'avais une petite idée que je voulais partir dans le social. Après discussion et des missions qu'on a et tout, je me suis dit que éducateur spécialisé c'était fait pour moi. Donc je pars là-dedans l'année prochaine.
C'est bien de vous avoir entendu, merci.
Le mardi, vous n'êtes pas en mission. Alors, qu'est-ce que vous faites lors des journées de regroupement ?
C'est très variable parce qu'on a quelques formations qui sont là tout au long de l'année, sont réparties sur toute l'année. C'est ça, surtout préparation de temps fort, regroupement. C'est la seule journée où on peut voir toutes les autres personnes des autres missions. Puisqu'on est un peu répartis dans toute la semaine, à droite, à gauche, parce qu'on a chacun nos missions, comme j'ai dit. Et ouais, c'est tout.
En même temps, il a répondu à la question qu'on allait poser parce qu'ils ont participé le 18 mars à une journée contre la discrimination. Et voilà, vous avez répondu parce qu'on allait poser la question à quoi vous allez participer encore.
Et bah, comme temps fort. Que les trois éléphants. Il y a les trois éléphants, ça en fait partie, mais il y en a d'autres. Je vais laisser mon collègue.
Alors, à la suite, il y a un projet avec Stéphane Piau à Laval. Qui a son studio au niveau de la bibliothèque Albert Legendre. Et donc, on a déjà fait une visite du studio le 1er mars. Et donc, on a quatre autres temps où on va faire visionner justement ces archives de la ville de Laval. Il y a des photos, mais il y a aussi des vidéos où il a vraiment repris des choses que des personnes ont ramenées. Et puis il y a des témoins aussi qui vont être là sur ces temps.
Et nous serons également présents le 29 mars prochain au Forum de l'autisme qui aura lieu au Centre Multi-Activité de Laval.
Alors ensuite, on voulait savoir, alors quel est votre meilleur souvenir de votre année de service civique jusqu'à présent ?
Bah moi personnellement, c'était du coup une intervention scolaire que j'ai fait du coup avec, on travaille toujours en binôme. Et du coup, c'était une intervention avec des jeunes migrants. Du coup, c'était vachement intéressant parce que, on a pris plus de temps du coup, pour la faire. Donc, on a vraiment bien plus détaillé, bien parlé avec eux. Et c'était vachement intéressant et enrichissant parce que ils ont chacun une histoire qui est différente. Et j'ai trouvé ça vraiment super cool.
Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est principalement pendant les visites où les personnes âgées nous montrent réellement que les visites leur servent à quelque chose et qu'ils nous montrent beaucoup leur gratitude.
Pour moi, mon meilleur souvenir, c'était le premier temps fort qu'on a fait. Donc, c'était à la maison de quartier des Pommerais. C'était dans le cadre de quartier en fête. Et on avait organisé un casino intergénérationnel avec différentes activités. Et c'était le premier temps fort qu'on faisait avec la promo et ça a vraiment permis de souder des liens.
Et enfin, quel conseil donneriez-vous un jeune qui souhaite s'engager à Unicité l'année prochaine?
Alors personnellement, je lui conseillerais de ne pas hésiter et surtout de ne pas se mettre de frein, de se faire confiance et d'en profiter parce que ça passe très vite.
Moi, je dirais un peu pareil que mon collègue parce que c'est une super bonne expérience et foncez quoi. Genre, c'est super cool et comme il dit, ça passe super vite. Hein, on est déjà à plus de la moitié, là, ça fait bizarre. Mais surtout, ouais, on est bien encadré, bien entouré et surtout, on rencontre des gens qui sont dans les mêmes vibes que nous, en fait. Donc, c'est super cool.
Bah, écoutez, merci de nous avoir accordé cet échange. Et puis, bon courage pour la suite de votre service civique.
Et belle continuation.
Et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci. C'est quoi déjà ?
Causerie on air.
Et maintenant, nous allons vous présenter le poème de Gwen. Et nous sommes aussi dans la semaine, la journée du poème. Donc, très bien, merci Gwen. Donc, tu vas nous dire ton poème.
Je l'ai appris aujourd'hui.
Alors, on t'écoute Gwen.
Donc, c'est un poème sur le printemps. On est le 21, donc nous sommes le printemps. J'aime le printemps et par tous les temps j'en profite en souriant. J'aime son vent, ni froid ni chaud. Son soleil le matin très tôt qui me réveille par des chants d'oiseaux. Me promener le long des cours d'eau. Respirer l'air sous les arbres bourgeons tout roses de fleurs sans leurs boutons. Je range enfin mes gros blousons et mon bonnet qui cache mes cheveux blonds. Les feuilles mortes dans les allées connaissent leur dernier coup de balai. Les fils à linge sont dépliés et les enfants sont enjoués. L'odeur de l'herbe toute fraîche tendue. Les terres sont tournées, le jardinier confus. Quel dommage, il n'a pas plu. Les animaux n'auront pas d'eau non plus, mais cette saison toute prometteuse me rend tout de même joyeuse. Sera-t-elle cette année orageuse, juste pour ces pluies, car je suis peureuse.
Merci Gwen. Du coup, nous allons écouter une petite musique de Kim, Le Seul pour moi.
Coucou maman.
je... Mon bébé, bien sûr, je serai toujours là pour toi. Bien sûr que tu es mon ange, moi. J'assurerai le moindre de tes pas. Tu es mon cœur, tu es mon âme. Je serai toujours là pour toi.
C'était Kim, le seul pour moi. Maintenant, nous allons revenir avec le poème de Gwen. Dis-nous, Gwen, c'est toi qui l'as créé, ce poème ?
Oui, c'est moi qui l'ai écrit après une randonnée qu'on avait faite avec la maison de quartier de Saint-Nicolas. Une randonnée qui était pas mal, ma foi, hein, où il y avait pas mal de choses à voir. On a vu des chevaux, on a vu des oiseaux, enfin, il y avait des cours d'eau. Et en fait, j'ai écrit le poème en fonction de ce qu'on a vu pendant la randonnée.
À voir et à entendre.
Oui, enfin, à voir et à entendre.
Est-ce que tu as fait tes petits bruitages, c'est ça ?
Oui, ou on marchait dans les feuilles, ou...
Les petits bruits d'oiseaux.
Des bruits d'oiseaux aussi, mais on en a vu aussi des oiseaux. On s'est approché à un moment d'une cage. On n'avait pas le droit, normalement. C'était une zone privée, mais on s'est autorisé. On a pris le gauche.
C'était une randonnée qui était où ?
C'était où déjà? C'était du côté d'Andouillé, il me semble. C'était Andouillé.
Donc ça t'a inspiré? Cette randonnée, elle t'a
inspiré? Oui. Puis même, j'avais envie d'écrire quelque chose sur le printemps, parce que j'adore cette saison-là. C'est celle que je préfère, où il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, où on commence à sortir les robes, on commence à se détacher les cheveux. Donc voilà, j'aime bien cette saison-là.
On pense à...
voilà.
C'est pas encore l'été, Georges.
Bah attends, le petit soleil là aujourd'hui, je te jure, s'il faut 2-3 jours comme ça, mais ce serait une belle journée pour moi, franchement. Allez,
merci.
On va continuer avec le carnaval du Brésil.
Alors, c'est pas trop le carnaval, c'était un rapport avec le festival des reflets du cinéma qui a eu lieu du 10 au 19 mars sur Laval.
Une merci petite interview. Taous.
Samba, samba.
Alors bonjour, on est en direct avec Noé qui va nous parler de la semaine des reflets du cinéma brésilien. Bonjour Noé.
Bonjour. Donc effectivement, c'est un festival de cinéma qui n'en est pas à sa première édition, puisque c'est la 26e édition des Reflets. Effectivement, ce sera consacré au Brésil. Et donc, on pourra découvrir un cinéma riche et varié dans les 10 salles du département, puisque c'est un festival départemental.
Et ça, c'est que mayennais, ça se fait que dans la Mayenne.
Oui, tout à fait. Nous, on est une association départementale, Atmosphère 53, et on travaille que en Mayenne.
Et pourquoi les reflets du cinéma brésilien et pas un autre pays?
Alors chaque année, en fait, on essaye de changer de zone géographique. Donc parfois c'est un pays, comme cette année le Brésil, d'autres fois un continent, on a fait l'Afrique, et parfois un groupe de pays. L'an dernier, c'était la mer Noire. Et après, pour le thème, comme c'est la 26e édition, on essaye de tourner et puis de prendre parmi les zones qu'on n'a pas encore exploitées. En l'occurrence, le Brésil, on n'a jamais fait de festival dessus. Le but, c'est vraiment de découvrir un territoire différent. Je pense que la plupart d'entre nous, y compris moi, ne connaissent pas beaucoup le cinéma brésilien et même le Brésil de façon plus globale. Donc l'idée, c'est de faire découvrir aux gens un territoire différent chaque année.
D'accord. Et Atmosphère 53, c'est une association
Donc oui, on est une association départementale dite d'éducation à l'image. C'est-à-dire que par exemple, une de nos actions principales, c'est les dispositifs scolaires. Donc ciné-enfant, collège de cinéma, ciné-lycéen. Et on s'attache aussi à défendre des films dits art et essai, donc des films parfois moins connus du public et qui ont une vraie vision d'auteur. Et on fait ça, donc, comme je disais, dans les 10 salles du département et donc par le biais de dispositifs scolaires et de festivals, comme c'est le cas des Reflets. Et puis on a d'autres festivals comme le Festival du film judiciaire et les Rencontres cinéma et santé, par exemple.
D'accord, c'est un peu comme les films qui passent sur Arte ou sur France 3, par exemple.
Par exemple, oui, c'est ça, effectivement. C'est des films que les gens n'iraient pas forcément voir d'eux-mêmes. Donc, nous, on essaye de les défendre. Et puis, le plus possible, on les accompagne, parce qu'on pense que c'est bien aussi qu'il y ait des invités sur ces films-là pour échanger avec le public.
On a Georges qui veut intervenir.
Bonsoir, Noé. Vous êtes combien dans votre association ?
Alors, on est 7 salariés, 2 volontaires en service civique et de très nombreuses et nombreux bénévoles. On a à peu près une 60aine de bénévoles actifs sur tout le département.
C'est super, merci de votre information.
Bon reflet du cinéma.
Voilà, bon reflet du cinéma.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci. Après avoir quitté Noé d'Atmosphère 53, nous sommes en direct avec
Sambanas Veillas de Nantes.
Ah, vous arrivez de Nantes?
Nous venons de Nantes. Donc on est venu spécialement de Nantes et tout pour faire cette animation ici. Et je dois dire, on a été superbement bien accueillis. Et puis j'ai eu de belles assistantes. Donc je me présente, je m'appelle Marlène, donc danseuse de Sambanas Veillas, qui signifie samba dans les veines. Et donc je suis venue accompagner deux mes camarades, trois charmants jeunes hommes qui m'ont accompagnée à la percussion. Donc il y a eu Pierrot, Thomas et Jules.
Ouais, je voulais juste dire, vous nous avez, on a eu le double soleil ici au quartier Saint-Nicolas, entre le soleil-soleil et le soleil que vous avez apporté, vous.
Mais c'est magnifique. Bah, c'est pour ça qu'on se déplace et tout. Donc, pour apporter couleur du Brésil, chaleur du Brésil, soleil et tout, et ambiance.
C'est la première fois que vous veniez sur Laval ?
Moi, personnellement, je crois que c'est la deuxième fois. J'étais venue il y a très, très longtemps pour une prestation pareille. Mais ici, donc, c'est la première. Donc, moi, je trouve le lieu super. Donc, moi, ce qui m'a frappé, vous avez une belle bibliothèque ici, très spacieuse et tout. Il y a beaucoup d'enfants, donc ça, c'est cool, ça.
Vous avez bien eu la place pour y danser, en plus.
Ah oui, on a eu plein de places. Beaucoup de places et tout, et un bon public et tout. Et je reparle de mes super assistantes. Venez, les filles, là, dites bonjour.
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 La petite danseuse.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Bonjour, les filles.
Juste une question, est-ce que vous êtes d'origine du Brésil ?
Alors non, nous sommes tous français, et par contre oui, nous sommes des gros passionnés du Brésil et du samba. Donc là on est, d'où le nom du groupe, la samba dans les veines.
Et les messieurs jouent de l'instrument, mais est-ce qu'ils dansent aussi ?
Bah, les garçons, je sais pas, faudrait leur demander.
Les gars, vous jouez de quel instrument ?
Moi, je joue du sourdo. C'est ce qui va un peu faire la basse dans l'ensemble de percussions de la batucada.
Et les deux autres compères ne jouent pas du même instrument, alors ?
Non, il y a Thomas, il joue de la caixa, donc de la caisse, c'est l'équivalent de la caisse claire. Et Jules, il joue du repiquimor.
C'est des instruments brésiliens ou ?
C'est des instruments typiques du Brésil et typiques de Rio, typiques du samba carioca, parce que nous, on joue du samba carioca qui est typique de Rio, quoi.
C'est un peu portugais, le Brésil ?
Ah oui, bah ancienne colonie portugaise, je précise. Donc, il parle le portugais, mais c'est un portugais qui est différent du portugais au Portugal. La prononciation dans les expressions et tout, donc c'est assez différent. Donc, c'est pour ça qu'on dit portugais-brésilien et portugais-portugal. On essaye régulièrement, au moins une fois par an ou une fois tous les deux ans quand c'est possible, là de retourner un peu aux sources, donc c'est-à-dire à Rio, de retrouver, on va voir le carnaval, donc on va dans les écoles, on va, voilà, donc c'est un retour aux sources pour nous. Enfin, moi j'estime danseuse qui est nécessaire pour continuer à perfectionner mon art, à apprendre d'autres choses, parce que c'est pas une danse, je suis pas née en dansant la samba, je l'ai apprise avec des professeurs brésiliens et des professeurs non brésiliens, etc., etc. Et c'est pareil pour mes les camarades aussi là qui ont appris à jouer de leur instrument et tout. Donc
c'est sûr que ça doit être quelque chose.
Vous avez vu un petit aperçu là de ce midi, de ce qu'on a fait cet après-midi. Donc imaginez là 3000 personnes là, costumés, plumés, qui jouent, qui dansent sur des chars qui font 12-13 mètres de haut. Là, vous allez avoir un des meilleurs spectacles de la Terre. Je tiens à dire, en fait, aussi, tous les préjugés aussi qu'il y a sur la danse brésilienne. Quand on nous voit arriver en général, danseuse à plumes, je vais dire vulgairement les fesses à l'air, le corps dénudé, et etc. Alors que c'est tout le contraire. Là, c'est une acceptation du corps. Voilà, là-bas au Brésil, tout le monde danse, toutes les femmes de toutes les corpulences, de toutes les couleurs. Là, danse matin, midi et soir, quand j'avais été, ça dansait tout le temps. De tous les âges, les enfants sont tout le temps là, donc il y a les enfants, les anciens et tout, toutes les générations sont toujours vraiment ensemble.
En ce moment, je veux vous parler du carnaval en Martinique. Si on vous dit carnaval, vous pensez au Brésil. Le carnaval de la Martinique n'a rien à voir avec celui du Brésil, qui est une compétition. Le carnaval en Martinique se prépare toute l'année pour les groupes à pied, fabrication de costumes, répétition tous les samedis. Il y a 22 groupes et chacun possède son costume, sa musique, son rythme et sa chorégraphie. Pendant 4 jours, dans les quatre coins de la Martinique, le carnaval bat son plein. Tout le monde participe et se prend au jeu. C'est un moment de défoulement, de dérision, d'audace, de laisser aller sa créativité et de partage. Dès l'épiphanie, jour de l'élection de la reine et mini-reine du carnaval, puis le samedi gras, le jour de l'élection du roi Vaval, le bois-bois que le peuple va festoyer. Le dimanche gras, dans les rues de la capitale, le roi Vaval, sur son char, ouvre les festivités du carnaval. Dans la foule, chacun devine qui est Vaval. Des noms fusent par-ci, par-là. Suspense, personne ne sait qui est Vaval. Il faut deviner, car Vaval peut représenter un fait divers, une personnalité ou un événement de l'année. Puis, les reines et mini-reines de chaque commune dévoilent leurs costumes au public qui applaudit de joie. Ensuite, chaque groupe marque une pause pour présenter aux spectateurs leur chorégraphie au son des tambours et le peuple participe en dansant, en riant. Les enfants courent à droite à gauche. Les rues sont remplies de costumes de couleurs à perdre de vue. Le peuple participe en chantant et en dansant. Les applaudissements se font entendre. Les rires sont expansifs. Le lundi gras, c'est le jour des mariages burlesques. Jour de dérision sur les couples mariés. Les hommes habillés en femmes et les femmes travesties en hommes avec les cortèges déambulent dans les rues en se donnant en spectacle, bras dessous, bisous par-ci, bisous par-là, habillés et maquillés comme de vrais mariages, tenues sexy, talons hauts, en voiture et à pied, il faut voir pourquoi. Même les médias se prennent au jeu, car la vie de décès de Vaval sera dite sur les ondes de Martinique Première. Vient mardi gras, jour des diablesses et du rouge, car tout le monde porte un vêtement rouge et maquillé. On se laisse aller à sa créativité. Ce sont des véritables vidés géants qui déboulent dans les rues. Grands et petits participent avec des instruments de musique. On entend les tambours résonner dans les villes. Puis vient le mercredi décembre. Vaval vient de mourir et le peuple s'apprête à fêter la mort du roi Vaval en noir et blanc et en musique. Les 22 goûts vont faire leur show avec leur musique. Le moment le plus intéressant, c'est quand sera brûlé le bois-bois. On entend des cris de douleur, des pleurs, des supplications, des scènes véritables. Et en dernière soirée, en boîte pour dire adieu à Vaval, en chantant « Malgré la vie aride, Vaval qu'a quitté nous » pour renaître de ses cendres. C'était le carnaval de la Martinique.
Alors, Georges André, j'aurais voulu savoir c'est quoi la différence entre bois-bois et Vaval.
Le bois-bois, c'est, je l'appelle le Vaval, le roi Vaval. Mais pour ne pas tout le temps dire bois-bois, Vaval, donc on change.
D'accord, c'est le même en fait.
C'est une grosse personnalité.
Mais il est représenté.
Il représente le roi Vaval, le bois-bois. Oui.
Quand il y a le carnaval, est-ce qu'il a une représentation? Parce qu'à un moment, tu as dit, les gens peuvent se l'interpréter comme
ils
veulent.
Oui, alors tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit que ça pourrait être un événement, le bois-bois en général.
Non, tu as dit Vaval, les gens se l'interprètent comme ils veulent, soit une image ou...
Non, pas comme...
Tu vas réécouter alors, Georges.
Vaval peut être interprété comme un fait divers,
alors,
une personnalité de l'année.
C'est ma question, est-ce que durant le carnaval, il est représenté?
Chaque année, dans le carnaval de la Martinique, on va représenter un bois-bois, donc le bois-vaval, mais qui a une signification par rapport à ce qui aurait été fait dans l'année. Donc, il peut avoir un événement,
un homme politique qui s'est présenté et qu'on ne voulait pas. Donc, je te donne deux exemples. Cette année, le Bois-Bois a été représenté par un petit bonhomme qui fume avec des vêtements de marque et des baskets. Parce qu'en Martinique, il y a un phénomène de délinquance. Et donc, le peuple en a marre de ce phénomène de délinquance. Donc, ils ont représenté le Vaval pour dire qu'ils en ont marre. Tu vois, on chante, on danse sur des choses qui nous emmerdent, en fait. On a eu un moment, Le Pen qui voulait venir en Martinique. Eh ben, on a représenté un Bois-Bois avec l'avion qui tournait et pour dire qu'on ne voulait pas qu'il descende en Martinique. Donc, ça pourrait être un fait divers, un événement passé dans l'année, des choses qui nous agacent, en fait. Okay. On s'amuse sur ça.
Par rapport à moi, qui on fait le carnaval à Lyon, oui, dans les quartiers de Lyon et tout, et il est toujours représenté, il est grand, en bois, et hop, à la fin du défilé, on va le brûler.
Nous, on le brûle aussi. La même, on le brûle aussi, mais...
Je veux dire, c'est toujours le même...
Ah, c'est toujours la même
monsieur
structure
en bois, nous.
Mais non, nous. Non, chaque année, ça change. Sa tête change.
Et c'est spécifique à la Martinique, ça.
Oui, donc, et c'est à toi de deviner, en fait. Et à quel moment tu sais que c'était cet événement-là ou c'était cette personnalité-là? À la radio, on annonce le décès de Vaval. Vaval est mort, mais on dit des choses qui te permettent d'avoir des... Tu vois, t'orienter.
Et le premier Vaval, alors? Le premier Vaval représentait qui?
Alors, moi, je ne sais pas le premier Vaval représentait qui, parce que je sais que en 17e siècle, donc, puisque le carnaval vient un peu des colons et de l'Afrique, nous descendons de l'esclavagisme. Du coup, il y a eu un premier carnaval au XVIIe siècle à Saint-Pierre, qui était la ville capitale de la Martinique. Les Africains, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils imitaient les maîtres, puisque à la période du carnaval, qui est en février, qui est la période de l'été et de l'agriculture, donc il y avait beaucoup d'agriculture, on récoltait, et donc les maîtres, ils fêtaient cette saison-là, et ils invitaient leurs convives, hein, avec le bal costumé et tout. Et les esclaves, eux, dans leur cabane, après, imitaient les maîtres avec leur tambour.
D'accord, mais en fait, chaque pays, je prends le carnaval de Venise, ou le carnaval à Lille, ou je ne sais plus, chaque coin a son...
Forcément.
Ses origines du carnaval,
oui,
alors.
Oui, ouais. Forcément.
Petite question, est-ce que le Vaval, ça peut être un chiffre?
À ma connaissance, non, mais on a toujours eu des bonhommes. L'euro, on a eu quoi, c'est quoi, un maire qui était renard. Et comme c'était un maire qui n'était pas très un bon maire, en fait, une année, ils ont carrément mis ce maire-là pour le vider, quoi, pour se moquer de lui. Quoi.
D'accord. Okay.
Donc, c'est un moyen de dérivement, en fait. Nous, on se moque de le carnaval, là, on s'amuse, mais sur des choses, tu vois, bien réelles.
D'accord. Bah, c'est ça ce qui se passe à Paris, en fait.
En ce moment, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Quel chiffre, Kevin?
49,3.
Ah.
Et du
coup... On est en plein dans l'actu. Hein.
Et du coup, c'est pourquoi qu'on brûle?
On brûle le Vaval, qui veut dire qu'il va renaître de ses cendres. Donc chaque année, puisque chaque année il y a un nouveau Vaval, donc on va le brûler pour dire que c'est terminé. On est mercredi décembre, on le brûle parce que c'est comme un deuil, quand on fait son deuil.
Est-ce que ça signifie qu'on pardonne la personne qu'on a brûlée,
pas vraiment ça. C'est juste qu'on brûle pour s'amuser, comme je te dis, c'est un moment de festivité. Il n'y a pas de haine dans le carnaval chez nous. Même quand on n'est pas content par rapport à certaines... Parce que je te dis que ça pourrait être représenté une personne, une personnalité ou un machin. Mais il n'y a pas de haine, c'est juste un moment de défoulement, d'amusement, de dérision.
Et c'est le même qui ressuscite chaque année?
Chaque année, c'est quelqu'un d'autre qui ressuscite.
Donc ce n'est pas une ressuscitation, alors?
Non, mais chaque année, le carnaval lui-même renaît de ses cendres. Chaque année, le carnaval renaît de ses cendres. Et par rapport à un nouvel événement, il y a un bois-bois.
C'est quoi déjà?
Causerie on air.
Et sinon, bonne dernière petite 70 à Annick. Hein. Et oui.
Oh oui, Annick, désolée.
On approche.
J'avais complètement oublié Annick.
Je sais pas comment on dit le chiffre 80.
On approche.
Elle les a pas encore. Hein, faut pas lui souhaiter.
On approche.
Hein,
c'est pour ça que je lui dis de bien terminer sa 70e,
79e année.
Ouais, oui, de profiter.
Voilà, c'était un petit clin d'œil qu'on lui faisait.
Demain commence une
de
nouvelle
profiter, semaine. De profiter du dernier jour, des derniers jours.
C'est pourquoi tu ris, Kevin. Mais tu de profiter. Dans la vie, il faut profiter des moments présents. Pourquoi tu ris?
Et puis quand elle écoutera l'émission, ils seront déjà passés. C'est vrai?
Ben oui, ce sera déjà sous sa tête, comme on dit.
Elle aura 7 jours de plus.
Ouais, mais je vous remercie d'être présent et puis à la prochaine. Hein. Et portez-vous bien. Bonne entrée. Merci à tous.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Pas ni longtemps à l'imaillé, quand ma radicale.